Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Elle s'appelle Lili Keller Rosenberg. Elle a été déportée à 11 ans avec sa maman et ses deux petits frères, à Ravensbrück d'abord, puis à Bergen-Belsen. Elle est l'une des dernières survivantes de la Shoah. Et l'histoire que je vais vous raconter est tirée de son livre qui paraît chez Plon, et nous sommes revenus seuls. Je l'ai écrite avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Pendant des années, nous n'avons parlé à personne de ce qui nous est arrivé. À quoi bon ? Les rares fois où on a essayé, on ne nous a pas cru. On nous a répondu « Nous aussi, on a eu faim en France ». Pourquoi poursuivre si on ne nous croyait pas ? Alors pendant longtemps, nous nous sommes tus. Moi, j'ai eu envie de rompre le silence à un moment très précis. Un jour où j'ai entendu quelqu'un dire à la radio que les chambres à gaz n'avaient existé que pour tuer les poux. Ça m'a mis hors de moi. Et voilà pourquoi, depuis 1983, je raconte mon histoire à des centaines de milliers de jeunes. En 1940, quand le régime de Vichy a exigé des Juifs qu'ils se fassent recenser, papa, en bon citoyen loyal et honnête, est allé s'inscrire sur les registres. Nous sommes maintenant en septembre 1942. Je viens d'avoir 10 ans. La guerre a éclaté il y a 3 ans. Notre ville est occupée. Les parcs de jeux sont interdits aux enfants juifs. Mais nous, les enfants, nous ne sentons pas l'étau qui se resserre. Nous ne voyons rien venir. Nous ne devinons rien. Et nos parents évitent de nous inquiéter. Mais le soir, dans mon lit, j'entends leur bavardage. Ils parlent de rumeurs, de menaces qui nous guettent. Mais moi, tant que je suis près d'eux, je ne me sens pas en danger. Je vais à l'école Voltaire, l'école des filles de Roubaix où nous vivons. Et mon frère Robert est à l'école des garçons juste à côté. Et notre petit frère André, qui n'a que 2 ans, reste avec maman. Depuis le mois de juin, je porte une étoile jaune. Mais à l'école, personne n'y prête attention. D'ailleurs, je suis juive, mais je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Mes parents ne sont pas pratiquants. Maman est couturière. Tout le monde l'appelle Mamika. Et elle nous cuisine souvent des pâtisseries de Hongrie, le pays qu'elle a dû fuir dans les années 20. Papa, lui, est timide. Il est employé dans une teinturerie industrielle. Et il a gardé un fort accent d'Europe de l'Est, très chantant. Un jour, le curé de notre paroisse, l'abbé Flipeau, vient frapper à notre porte.
Je suis très inquiet pour vous. Le fait que vous vous soyez fait recenser n'augure rien de bon. Alors si vous voulez, je peux cacher des enfants dans ma famille. Ils seront en sécurité.
Mes parents acceptent avec beaucoup de gratitude. Et un soir dans la cuisine, maman nous annonce que nous allons être séparés quelque temps. Vous voyez les soldats qu'on voit dans la rue? Ils n'aiment pas les juifs comme nous. Et donc il va falloir aller vivre chez d'autres gens. Et surtout ne pas dire que vous êtes juif. Alors toi, Lily, t'iras dans la famille du frère de monsieur le curé. Robert ira chez ses parents. Et toi, André, tu iras chez sa sœur, Elisa. Vous verrez, ils sont très gentils. Vous y serez très bien. Nous passons toute l'année scolaire dans ces familles, quasiment sans nous voir les uns les autres. Le frère du curé et sa femme me font passer pour leur nièce. Mais ma famille me manque beaucoup. Pour quelles raisons inexplicables nos parents nous font-ils rentrer à la maison à la fin de l'été 43 ? Pensent-ils que le danger est écarté ? Le 27 octobre 1943, à 7h du matin, nous sommes réveillés par un énorme branle-bas de combat dans la maison. Des soldats bottés, casqués, effrayants. « Prenez tous vos papiers et vos affaires !» Maman essaye de nous rassurer. « Allez, habillez-vous vite. Ne vous faites pas de soucis, ça n'est rien. »«
Schnell ! Schnell !»
On nous pousse à l'arrière d'un camion militaire bâché. Le camion nous dépose devant la grande prison de Los, près de Lynch. On nous fait traverser un long couloir et on nous jette maman et nous trois dans une cellule et papa dans une autre. Au bout de 3 jours, la porte s'ouvre, on traverse la cour et on nous fait monter dans un camion et on nous conduit dans une autre prison, en Belgique, la prison Saint-Gilles de Bruxelles, dans des caves, dans une cellule très étroite, une cellule déjà pleine de femmes apeurées. Nous y restons à nouveau 3 jours, sans manger, ni boire, ni dormir. Et puis la cellule s'ouvre et on nous embarque vers le camp de Malines, entre Bruxelles et Anvers. Ça nous angoisse, mais nos parents sont toujours près de nous. Le 13 décembre 1943, ça fait 1 mois et demi que nous sommes enfermés à Malines. Les SS débarquent. Nous allons quitter le camp ! Schnell, schnell ! Je nous revois tous, debout les uns derrière les autres. Les femmes et les petits-enfants d'un côté, et les hommes et les garçons de plus de 15 ans de l'autre. Ils nous font entrer dans une grande salle.
Vous devez tous vous mettre nus !
Maman, nous ne l'avons jamais vu nu. Ils nous font ensuite pénétrer dans une guérite, dans laquelle 2 SS très jeunes nous attendent pour procéder à la fouille.
Ouvrez la bouche ! Penchez-vous en avant !
Et là, ils écartent nos jambes et l'un des 2 SS éclaire avec sa lampe de poche. Je n'oublierai jamais cette humiliation. Et ensuite, on nous presse de nous rassembler pour le départ. Mais un départ pour où ? Nous faisons partie du convoi Z1 qui va transporter papa vers le camp de Buchenwald et nous, maman, mes frères et moi, vers celui de Ravensbrück. Je ne me souviens pas quand nous avons perdu papa de vue. Je ne me souviens pas du dernier mot, du dernier geste, du dernier regard. Je vois juste la cohue sur le quai, les cris des SS qui gueulent et les aboiements des chiens. On nous fait monter dans des wagons à bestiaux, 100 de femmes et d'enfants entassés. La porte du wagon se referme. Le train se met en marche. Le voyage dure 4 à 5 jours. Épouvantable. Nous arrivons à l'aube, dans le fracas des portes de wagons qui s'ouvrent. Nous dégringolons dehors dans le froid. Il est peut-être 5 heures du matin.
Los ! Los ! Schnell ! Schnell !
Et on suit la foule en direction de ces hauts murs sinistres, surmontés de barbelés. Dans le camp, chaque groupe est dirigé vers une salle de douche. Des femmes nous coupent les cheveux et nous rasent la tête. Et puis comme un troupeau, on nous pousse vers les douches, un mince filet d'eau sous lequel nous claquons des dents, outragés, humiliés. On nous distribue ensuite à chacune une robe rayée gris et bleu et un morceau de tissu sur lequel est inscrit notre matricule. Maman devra le coudre sur nos robes. André a le 25610, Robert le 25611, moi le 25612 et maman le 25613. Ravensbrück, à 80 km de Berlin, est un camp de concentration de 9 km². C'est le seul qui est destiné uniquement aux femmes. En décembre 1943, quand nous y arrivons, il n'est pas encore plein. On nous fait transiter par plusieurs blocs, jusqu'au bloc numéro 31, où nous allons rester plusieurs mois. 2 grands dortoirs, séparés par une salle où se trouvent les douches, les latrines et la chambre de la Blokova, une déportée devenue gardienne. Nous sommes dans la salle de gauche. Le long des murs, des couchettes en bois sur 3 étages, équipées d'une paillasse et d'une couverture dégoûtante et bien mince, infestée de poux. Maman est avec André et Robert et moi juste à côté. Et dans cet endroit immonde, nous tentons de nous faire le plus petit possible, de nous rendre invisibles. Tous les matins, la sirène hurle à 3h30. Et là, nous devons courir pour nous laver sous l'eau glacée et filer sur la place du camp pour l'appel, en colonne, 5 par 5, immobiles, bien droites. Certaines qui sont là depuis des mois tombent à genoux dans la boue et dans la neige. Et là, la cravache s'abat sur eux. Ou alors les SS libèrent leurs chiens et elles hurlent. Seules celles qui meurent pendant l'appel ont le droit de rester couchés au sol. Chaque matin, nous voyons maman partir pour l'Arbeit, le travail. 12 heures par jour, à déglacer les routes, à coups de pioche et de pique. Et nous, nous nous retrouvons dans notre sinistre geôle, anxieux, perdus sans elle, avec pour seule occupation de nous enlever les poux. Nous ne pleurons même plus. On nous a dit que les SS entraient parfois dans les blocs et qu'ils embarquaient un enfant seul, qu'on ne le revoyait jamais. La douleur de ma mère quand elle rentre le soir, sans savoir si elle va nous retrouver. La dysenterie est partout dans le camp. Des femmes marchent avec des coulées de merde le long des jambes. Dans notre bloc, tout se vole. La nourriture, les loques de vêtements. Alors le soir, nous enroulons nos galoches dans nos robes et on s'en sert comme oreiller. Et quand il n'y a pas de nazis dans les parages, nous chantons, chacune dans notre langue. Et nous, les Françaises, nous avons réécrit les paroles de « Je chante » de Charles Trenet. On souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim. C'est devenu notre hymne. Comme à présent, nous sommes trop nombreuses pour la douche, maman a décidé de nous réveiller une demi-heure avant la sirène, pour que nous fassions notre toilette avant tout le monde. Les enfants, vous voyez? On nous a tout pris. Mais il faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Hein? Et pour rester digne, il faut faire sa toilette tous les jours. Hein? Pour avoir l'air correct. J'ai gardé cette leçon de vie. Restez digne, en toutes circonstances. Nous sommes infestés de vermine, rongés par la dysenterie. Robert a la tête couverte de furoncles et André a attrapé un énorme anthrax sur l'aine. Et moi aussi j'ai un îlot de furoncles sur le ventre. Et maman en a sur les fesses. Elle ne peut plus s'asseoir. Et puis un jour me voilà avec une mauvaise grippe intestinale. Alors je dois aller au Revire, le bâtiment pour les malades, sans maman, ni mes frères. Un endroit plein de souffrants, dont on revient rarement. Les nuits sont cauchemardesques. Les quintes de toux des tuberculeux, les gémissements, le râle des mourantes, et moi qui grelotte de fièvre et d'effroi. C'est probablement là que commencent mes insomnies qui ne m'ont jamais quitté. Voilà plus d'un an que nous sommes là, et nous ne comptons plus les cadavres. J'ai 12 ans maintenant, et cette vie misérable est presque devenue un spectacle ordinaire. Un matin de février 45, après l'appel, des femmes sont regroupées sur la place. Nous comprenons que nous allons quitter le camp. Mais pour aller où? On nous amène à une gare, on nous entasse à nouveau dans des wagons à bestiaux, et ce voyage est un cauchemar indicible. Il dure 3 jours, peut-être 4, sans manger, sans boire. Et puis le train finit par s'arrêter en pleine voie. On descend pour aller vers des camions. Quand un SS demande à maman et à une autre femme de remonter dans les wagons pour nettoyer ce qu'il reste, C'est-à-dire que maman doit saisir à pleine main des cadavres de bébés. 27 sont morts pendant ce voyage. Et les camions démarrent. Et ils nous emmènent vers un nouveau camp. Bergen-Belsen. Quand nous franchissons l'entrée, c'est l'apocalypse. Des centaines de cadavres jonchent le sol que nous devons enjamber. Avec maman, on se regarde. Cette fois, nous n'allons pas nous en sortir. Elle se penche vers nous et nous nous disons adieu, tous les quatre. Au revoir, ma petite Lily. Et nous nous embrassons parce que désormais, nous attendons la mort. Mais ce qui va suivre sera pire que la mort. Quand nous entrons dans le bloc, il est déjà plein à craquer. Un groupe de Polonais se rue vers nous et se met à nous battre et à vociférer.
Il n'y a plus de place! Il n'y a plus de place ici!
Notre installation se fait dans le chaos. Nous nous asseyons par terre dans un recoin. Et Robert et moi, nous nous couchons à moitié sur une personne qui nous laisse faire. Le lendemain matin, nous découvrons que nous avons dormi sur un cadavre. À peine ouvert les yeux, des cris dehors.
Los! Los!
L'appel, comme à Ravensbrück. On se précipite, on sort. En face de notre baraquement, dans une espèce de hangar, sont entassés des monceaux de cadavres, nus, pêle-mêle, jetés là comme des déchets. L'enfer, c'est ici. Les nazis comptent sur l'épuisement, la faim et le typhus pour exterminer les déportés. Chaque jour, maman, avec trois autres déportés, est chargée d'emporter les cadavres à l'extérieur, vers des charrettes qui acheminent les corps vers des fosses que les nazis aspergent d'essence ou de chaux vives, pour y mettre le feu. Nous passons toutes nos journées assises par terre dans le bloc. En face de nous, il y a une Italienne et son petit frère qui doit avoir 15 ans. Il va très mal et sa grande sœur s'occupe de lui avec beaucoup de tendresse. En fin d'après-midi, elle s'est endormie et lui, il est à côté d'elle, immobile. Et soudain, je le vois blêmir, se mettre à suffoquer, et un liquide brunâtre se répand sous lui. Et c'est fini. Il est mort seul. Mais lui, il a été délivré. Maman a attrapé le typhus. Je suis anéanti. Le 15 avril 1945, nous sommes allongés sur le sol dans une morbide torpeur. La porte s'ouvre et nous voyons entrer des soldats, des Anglais. En nous découvrant pauvres déchets humains, ils font un pas en arrière, ils sont paralysés d'effroi, ils ont l'air perdus, décontenancés. Quand ils reprennent leurs esprits, ils se mettent à nous distribuer de la nourriture, d'énormes pains de campagne, des tubes de lait concentré, des boîtes de cornet de bœuf. Mais nous ne pouvons plus manger. Nous n'en avons plus la force. Il y en a qui se jettent dessus et qui dévorent les pains d'une traite. Dans les heures qui suivent, ils vont mourir d'avoir trop mangé et trop vite. Nous sommes libérés. Mais nous restons blottis les uns contre les autres. Et moi, je ne ressens pas de joie. D'autant plus que depuis quelques jours, maman est bizarre, inerte, allongée sur le sol, quasi inconsciente. Avec ses doigts, elle se malaxe le ventre.
Si j'arrête, je vais mourir.
Elle qui a été si forte pour nous, elle ne se ressemble plus. Alors tous les jours avec Robert, nous tentons de la sortir du bloc en la traînant pour qu'elle puisse mieux respirer. Et puis un jour, les infirmières la couchent sur une civière et elles l'emmènent à l'hôpital. Nous la regardons partir, le cœur serré. Et nous restons seuls, seuls et désemparés. Est-ce qu'on la reverra ? Et puis un soir, une grande effervescence gagne le camp. Il paraît que les Françaises, les Belges et les Néerlandaises vont pouvoir rentrer chez elles. Elles partent demain. On va rentrer sans maman, qui est toujours à l'infirmerie. Eh ben oui, nous allons devoir partir tous les trois sans pouvoir l'embrasser. Le lendemain, on nous demande de rassembler nos affaires. Nous grimpons dans des camions. On ne sait pas où ils nous emmènent. Quand nous descendons des camions, il reste un long chemin à pied jusqu'à la gare. Et nous sommes tous les trois très affaiblis et malades. André a la tête et le ventre énormes et les bras et les jambes très maigres. Il ne sait même plus marcher. Alors je décide de le porter. Personne ne nous aide. Personne ne se préoccupe de nous. Nous sommes une armée de morts-vivants. À la gare, nous attendent de nouveaux wagons à bestiaux. Certes, ils ont été nettoyés, on a mis de la paille au sol, mais ça reste des wagons à bestiaux. On s'attendait quand même à mieux. Autour de nous, les déportés libérés ont l'air soulagés, heureux. Pas nous. Nous nous sentons seuls, abandonnés, et nous ne savons pas où nous allons. Au bout de 4 ou 5 jours, le train s'arrête à Bruxelles. Et là, sur le quai, un monde fou et de la musique. Des pleurs, les cris de joie des familles qui se retrouvent. On nous embrasse, on nous questionne, on nous bourre de nourriture. Et moi, je pense à maman. Est-elle toujours en vie ? Et puis, nous reprenons notre place dans un wagon. Jusqu'à Paris. Paris que nous n'avons jamais vu. Un camion nous attend à la gare. Il nous dépose à l'hôtel Lutetia. Et là, se forme sur notre passage une haie immense de Parisiens qui nous acclament. Et nous sommes tous les trois les plus petits déportés de ce cortège. Nous entrons dans l'hôtel. Nous sommes mitraillés par les photographes. Les gens s'embrassent, ils pleurent, ils rient. Partout, c'est la joie. Mais pour nous, personne n'est là. Personne n'est venu nous chercher. Une assistante sociale qui s'appelle Francine nous a remarqués. Je vais téléphoner à mon frère, hein, pour lui demander de vous accueillir. Ne vous inquiétez pas. Son frère s'appelle André Chinsky. Il habite à Neuilly. Et il vient nous chercher tout de suite et il nous emmène chez lui. Sa maison est très belle. Et nous sommes dégoûtants. Alors la première chose qu'il fait, c'est de nous plonger dans la baignoire. Et ensuite, il nous sert un vrai repas. Et puis, il nous monte sur son dos pour aller dans les chambres. Nous, on n'en a pas la force. Nous dormons dans de vrais lits pour la première fois depuis 1 an et demi. Je ne sais pas par quel hasard, quelques jours après notre arrivée, me revient en mémoire que nous avons une tante qui habite à Niort, Clara. C'est la sœur de maman. Alors M. Chinsky lui écrit, et elle vient nous chercher. Et à la gare de Niort, quand nous descendons, une foule nous acclame. Mon oncle est sur le quai, il y a une fanfare, des journalistes. Ils veulent tous voir ces trois petits-enfants rentrer seuls des camps de la mort. Ils veulent nous embrasser, nous poser des questions. Mais nous, on est trop émus pour leur répondre. Où sont papa et maman ? La Croix-Rouge est venue nous ausculter. et ils ont décidé de nous transférer dans un préventorium, le Nid Marin, à Hendaye, au bord de la mer. C'est la première fois que nous voyons l'océan. Mais je n'en garde aucun souvenir. Notre esprit est resté ailleurs. Et là, à Hendaye, se produit un miracle. On est là dans notre chambre, tous les trois, amorphes. La porte s'ouvre. Maman ! Maman apparaît. Elle est revenue, elle nous a retrouvés. Elle est dans un état épouvantable, elle pèse 27 kilos, mais elle est là. Elle est vivante. Et avec maman à nos côtés, tout redevient possible. Entre 130 000 et 140 000 femmes ont été déportées à Ravensbrück, dont 8 000 françaises. 90 000 y sont mortes. Alors pourquoi sommes-nous revenus vivants, tous les quatre? Je ne vois qu'une seule explication. L'amour de maman, sa force, son courage, elle n'a vécu que pour notre survie. Elle nous a en quelque sorte portés deux fois, elle nous a donné deux fois la vie. Puisque maman a survécu, maintenant, nous espérons le retour de papa. Nous apprendrons par des déportés de Buchenwald qu'il a été mitraillé avec un groupe de juifs 3 jours avant la libération du camp. Les nazis ont volé mon enfance. Ils ont mis un poids sur ma vie. Je ne suis pas malheureuse. Mais je ne pourrais pas dire que je suis heureuse non plus. J'en suis incapable. J'éprouve des joies, hein, des petites joies qui me font du bien. Mais le bonheur, non. À 88 ans, quand j'y pense, j'envie les dames de mon âge qui ont une vie facile. Moi, j'ai un rôle à jouer. Je dois transmettre, partir sur les routes, témoigner, ne jamais abandonner, jamais. Quand j'y pense, tout ça aurait pu me rendre méchante. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Je me suis rendu compte que le mal qu'on faisait aux autres, on se le faisait à soi-même. Si j'étais devenu dur et insensible, ça m'aurait abîmé. Je veux un monde de paix. Est-ce utopique? Je ne le crois pas. J'ai tiré cette histoire du livre de Lily Rosenberg chez Plon et nous sommes revenus seuls.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.